fait tantôt de l'ébène et tantôt de l'émail. Et leurs pattes, qui sont rouges parmi cette ombre, semblent, sur du velours, des branches de corail. Au bout du clos, bien loin, où vont paître les oies et vaguer les dindons noirs comme des huissiers. Oh, qui pourra chanter vos bonheurs, vos joies, rentiers, faiseurs de lard, philistins, épiciers. Ô vie heureuse des bourgeois, qu'avril bourgeonne ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé 3 jours par sa pigeonne. Ça lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un temps. Ce dindon a toujours béni sa destinée. Et quand vient le moment de mourir, il faut voir cette jeune oie en pleurs. C'est là que je suis né, je meurs près de ma mère et j'ai fait mon devoir. Son devoir, c'est-à-dire, elle blâmait les choses inutiles, car elle était d'esprit zélé. Et quand des papillons s'attardaient sur des roses, elle cassait la fleur et mangeait les trêlés. Elle a fait son devoir, c'est-à-dire que honk, elle n'eut de souhait impossible, elle n'eut aucun rêve de lune, aucun désir de jonque, l'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu. Elle ne sentit pas lui courir sous la plume de ces grands souffles fous qu'on a dans le sommeil pour aller voir la nuit, comment le ciel s'allume et mourir au matin sur le cœur du soleil. Et tous sont ainsi faits, vivre la même vie. Toujours pour ces gens-là, cela n'est point hideux. Ce canard n'a qu'un bec et n'eut jamais envie, ou de n'en plus avoir, ou bien d'en avoir deux. Aussi comme leur vie est douce, bonne et grasse, qu'ils sont patriarcaux, béats, vermillonnés, 5%, quel bonheur de dormir dans la crasse, de ne pas voir plus loin que le bout de son nez, n'avoir aucun besoin de baiser sur les lèvres, et loin des songes vains, loin des soucis cuisants, posséder pour tout cœur un viscère sans fièvre, un coucou régulier et garanti, disant « Oh, les gens bienheureux !» Tout à coup, dans l'espace, si haut qu'il semble aller, lentement, d'un grand vol, en forme de triangle, arrive, plane et passe. Où vont-ils? Qui sont-ils? Comme ils sont loin du sol, les pigeons, le bec droit, poussent un cri de flûte qui brise les soupirs de leur col redressé et saute dans le vide avec une culbute. Les dindons d'une voix tremblotante ont gloussé. Les poules picorant ont relevé la tête. Le coq droit sur l'ergot, les deux ailes pendant, clignant de l'œil en l'air et secouant la crête. Vers les hauts pèlerins pousse un appel strident. Qu'est-ce que vous avez, bourgeois, soyez donc calme. Pourquoi les appeler, sauts, ils n'entendront pas. Et d'ailleurs, eux qui vont vers le pays des palmes, crois-tu que ton fumier est pour eux des appâts? Regardez-les passer, eux ce sont les sauvages. Ils vont où leur désir le veut, par-dessus mont et bois et mer et vent. Et loin des esclavages, l'air qu'ils boivent ferait éclater vos poumons. Regardez-les avant d'atteindre la chimère, plus d'un l'aile rompue et du sang plein les yeux mourra. Ces pauvres gens ont aussi femme et mère, savent les aimer aussi bien que vous, mieux pour choyer cette femme et nourrir cette mère. Ils pouvaient devenir volailles comme vous, mais ils sont avant tout des fils de la chimère, des assoiffés d'azur, des poètes, des fous. Ils sont maigres, meurtris, là, harassés, qu'importe. Là-haut chante pour eux un mystère profond à l'haleine du vent. Inconnus qui les portent, ils ont ouvert sans peur leurs deux ailes, ils vont. La bise contre leur poitrail siffle avec rage, l'averse les inonde et pèse sur leur dos. Eux dévorent l'abîme et chevauchent l'orage. Ils vont loin de la terre, au-dessus des badauds. Ils vont par l'étendue ample, roi de l'espace. Là-bas, ils trouveront de l'amour, du nouveau. Là-bas, un bon soleil chauffera leur carcasse et fera se gonfler leur cœur et leur cerveau. Là-bas, c'est le pays de l'étrange et du rêve. C'est l'horizon perdu par-delà les sommets. C'est le bleu paradis, c'est la lointaine grève où votre espoir banal n'abordera jamais. Regardez les vieux coqs, genoux édifiantes. Rien de vous ne pourra monter aussi haut qu'eux. Et le peu qui viendra d'eux à vous, c'est leur fiante. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux.
Rien, c'est qu'un gros feignant, un gros pacha, un charlatan. Quand on l'appelle, chat répond pas, n'en fait qu'à sa tête à chaque fois. Chat s'en fout du camp, dira-t-on, rentre quand il veut à la maison. Chat fait du bien quand il ronronne, c'est trop chou quand chat s'abandonne. Chat, c'est qui, chat? C'est mon matou qui vit chez moi. Chat, nous même c'est parfois nom d'un miaou, je vis chez mon chat. Et j'adore chat. Chat fait le gros dos quand il a peur du chien que chat porte pas dans son cœur. Les aboiements, chat n'aime pas trop. Les griffes, chat les sort quand il faut. Chat ramène toujours des trophées. Oiseau souris chassé, chassé. Quand chat va pas, qu'il est fâché. Chat donne pas envie de s'effroter. Chat, oh, c'est qui, chat? C'est mon matou qui vit chez moi. Chat, oh merci parfois. Nom d'un miaou, je vis chez mon chat. Et j'adore chat. Chat pose ses pattes sur mon clavier. Pour écrire chat, c'est pas gagné. Mais pour chaparder, s'échapper, c'est chat le plus fort du quartier. Chat d'or au chaud sur le capot de mon chat à nous dans mon chapeau. Quand chat s'endort sur mes genoux, chat me fait comme du bonheur partout. Oh chat, c'est qui, chat? C'est mon matou qui vit chez moi. Chat, nous même si parfois nom d'un miaou, je vis chez mon chat. Et j'adore chat. Et j'adore chat. Et j'adore chat. Et j'adore chat. Tout ce qu'il veut de son humain, car c'est moi qui lui appartiens. C'est chat qui choisit, c'est son choix. Ça va, il me laisse habiter là, dans ce monde où les souris dansent. Chat se fout bien de tout ce qu'on pense. Qu'est-ce qui nous attache, lui et moi? Je sais pas, mais je donne ma langue. Quicha, oh c'est Quicha, c'est mon matou qui vit chez moi. Quicha, oh même si parfois.
Bien, donc, le petit problème technique est réglé. On va avoir une première intervention des deux compagnons qui sont à la table là sur à la fois les tentatives autogestionnaires en Iran dans les années 80, mais ils vont vous expliquer ça. Et puis Nader, à un moment ou à un autre, va faire un point sur la situation aujourd'hui, puisqu'il s'y passe beaucoup de choses et il faut aussi être au plus près de l'actualité. Puis ensuite, Nader montrera à la table de mixage, puisqu'on aura un autre témoignage d'un camarade qui a travaillé, je crois, dans le pétrole, dans les aciéries en Iran, où il y a eu aussi des tentatives. Ce camarade est en Suisse, il parle farsi, et donc c'est Nader qui fera la traduction en direct. À vous.
Bonjour. Donc, je vais commencer par parler un peu en général des conseils ouvriers et des comités de quartier que je viens de découvrir sur l'affiche il y a pas longtemps. Et, mais ce n'est pas trop difficile parce que moi j'étais à l'époque et tout ce que j'entends aujourd'hui de l'Iran ressemble tout à fait. Mais je ne vais pas plus loin que ça pour expliquer les ressemblances. Et c'est qu'à l'époque, c'était la fin du régime du Shah, le dictateur, qui était héritier un peu, se disait, de 2500 ans de monarchie en Iran. Donc c'était un événement historique que le régime est tombé. Mais comme vous le savez, ça a été remplacé par un autre régime avec comportement tout de suite découvert que ce sont des fascistes. Je rigole pas. Et là, on peut dire des choses sur les relations avec les partis nazis, etc., en Iran, etc. Donc, c'était pas facile pour les Conseil d'ouvriers surtout, parce que en ce qui concerne les comités de quartier, ils ont tout de suite, auto-organisé par les gens de quartier pour un peu gérer les affaires courantes de quartier après qu'il n'y avait plus de gouvernement. À cette époque, après le Shah, il y avait la grève général de 6 mois, surtout celle du pétrole qui a donné le coup fatal au régime parce qu'il n'y avait plus de pétrole pour eux. Donc le Shah a quitté l'Iran et l'armée a tenté une partie d'attaquer l'autre partie qui était pro-Khomeini, certaines pro même gauche. Et il y avait une insurrection armée de la population. Tout le monde a été armé par les gens insurgés de l'armée. Et les commissariats étaient pris dans 2 jours. Il n'y avait plus de police. Les casernes ont été prises dans 3 jours. Ils se sont rendus. Les prisons ont été ouvertes. Donc, il y avait 3 mois d'anarchie. La liberté sans limite et auto-organisation totale. Mais ça n'a pas duré longtemps. Et parce que justement, ces comités et ces conseils pouvaient faire changer les choses et faire aller la situation vers une situation de révolution sociale. Mais il n'y avait pas assez de préparation. Ni théorique, ni pratique, ni organisationnel. Et c'était trop rapide, auto-organisé. Donc, en premier lieu, le parti de Moula, qui était le mieux préparé et mieux financé par bourgeoisie de bazar, et même les États comme les Américains eux-mêmes, qui pensaient, je ne sais pas ce qu'ils pensaient, bon. Et les Russes qui ont aidé aussi par via Parti Today et les positions qu'ils ont prises pour soutenir le régime de Khomeini, tout ça. Donc, ils sont venus en force. Khomeini n'était pas le chef de l'opposition avant qu'il arrive à Paris. Et c'est surtout sans les quelques jours de séjour à Paris qu'il y avait beaucoup de propagande pour lui, des médias, on peut dire, principales. Et beaucoup d'intellectuels iraniens, etc., même de gauche, etc., qui l'ont soutenu en ayatollah réactionnaire. Moi, j'ai vu les archives de Le Monde Libertaire. Dès l'époque, ici, les anarches savaient qui c'était Khomeini. Ils n'ont jamais fait confiance à lui. Mais voilà. Donc, ils l'ont passé pour un démocrate, je ne sais pas quoi. Et il est venu avec tous ses moyens. Il a pu mobiliser beaucoup de monde avec les moyens financiers qu'il avait, les offres sociales, etc., les aides dans les quartiers, ramener beaucoup de gens dans les manifs. Et comme ça, les slogans social et ouvrier ont été masqués, même mis dehors des manifestations, ils ont récupéré la rue. Et après, ils ont commencé par mettre la main sur ces conseils de quartier. À chaque conseil, ils ont envoyé un moula qui dirigeait les actions, les affaires. C'était une sorte de commissaire politique qui l'ont mis après dans l'armée, etc. aussi, ce genre de commissaire politique. Idéologique. D'ailleurs, leur bureau s'appelait Bureau politique et idéologique, carrément. Et, par là, ils étaient seuls armés. Khomeini, à appui de ces gens-là et la masse qu'il a pu mobiliser avec ses moyens qui lui ont été donnés, de désarmer la population. Bon, beaucoup ont caché leurs armes, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Mais en apparence désarmés, ils étaient seuls maîtres de terrain. Et les premières choses qu'ils ont mis la main dessus, c'est ce comité de quartier. On peut dire, si Lénine a donné, voulait en parler, donner le pouvoir au conseil, Khomeini a donné le pouvoir au comité. Donc, après, mais le conseil ouvrier, ce n'était pas si facile que ça, parce qu'à côté des comités de conseil et comités de quartier, il y avait des comités de grève constitués dans les lieux de travail. Et là, il y avait des gens qui avaient expérience de lutte, même à l'époque du Shah, où la police politique contrôlait les syndicats et tout, toute grève, même le patron ne pouvait pas décider s'il paye les grévistes ou pas à l'époque du Shah. Il fallait que le patron contacte la police politique et c'est eux qui envoyaient un militaire, un colonel, un général qui dirigeait l'affaire. Donc ils sortent de cette situation, mais seulement il y avait une histoire dans le mouvement syndical iranien des années 1920 où l'Iran était occupé par les Anglais et les Soviétiques. Là, l'ancien roi était parti et il y avait une sorte de démocratie, disons, demi-démocratie qu'il y avait. Et dans cette situation-là, les syndicats se sont constitués. Il y avait une confédération, une sorte de conseil général des syndicats qui organisait 400 travailleurs à son sein à l'époque où l'Iran n'était pas très population pas nombreuse, classe ouvrière aussi beaucoup moins nombreuse. Parce qu'après, dans les années où il y avait 1997, le mouvement révolutionnaire qui a échoué, il y avait 35 millions d'habitants et on disait 4 millions de travailleurs dans les industries, etc. Et ça, on parle de 1920, c'était beaucoup moins. Mais donc, cette organisation ouvrière à 400 000 travailleurs qui étaient beaucoup de militants dedans, etc. Et c'était une force non négligeable qu'au parti Today communiste pro-soviétique a mis la main dessus et s'est attaché à sa bureaucratie. Et ce qui a fait que quelques années après 1949, et le parti Today a été interdit et cette organisation syndicale, ça a disparu. Voilà le résultat de l'attachement à la bureaucratie du parti. Mais les travailleurs étaient toujours là. Ils ne peuvent jamais mettre la main sur les travailleurs qu'ils ont, leur milieu familial, leur voisinage, etc., qui parlent entre eux et parlent du travail et les choses qu'ils font, comme grève, etc., contestation dans le travail. Et ces gens existaient toujours et existent. Et c'est donc ce sont eux qu'après, quand il y avait, après 1979, la situation qui le permettait, on fait des comités de grève. Ces comités de grève ont organisé toutes les grèves, en fait, qui a fait la grève générale, qui a fait la grève des pétroliers, etc. Et ces comités devenaient soit à côté des syndicats, mais aller sur une organisation de conseil Shura en iranien. Ce conseil qui décidait est les travailleurs normalement qui étaient pour la lutte et contre l'ancien régime et qui attendaient beaucoup de changements, ils étaient prêts à participer dans tout ce que les organisations syndicales des conseils, les directions des conseils, etc. Et ils demandaient. Donc c'était une puissance en fait, toutes les entreprises, on peut dire en général, étaient gérées par les travailleurs eux-mêmes, qu'ils soient syndiqués, qu'ils soient dans les conseils ou pas, mais même étaient obligés de gérer leur entreprise parce que les patrons, soit privés, étaient partis ou se cachaient, soit de l'État, les travailleurs ne les laissaient pas entrer dans l'entreprise. Ils voulaient eux-mêmes faire leur vie. Par exemple, ces conseils, souvent, ils ont fait le temps de travail, ils ont baissé à 40 heures à l'époque. c'était beaucoup plus. C'est ça qu'ils ont fait tout de suite dans beaucoup d'endroits. Et après, donc, les problèmes qui posaient les banques, etc., malgré que tout ça a été, toute l'économie, on peut dire, a été étatisée par le nouveau régime, parce que Khomeini voulait mettre la main, d'ailleurs, le pouvoir qu'il avait, l'État, et voulait mettre la main sur l'économie aussi, pour faire sa dictature. Et donc, étatisé, deuxième étape, était que ces ouvriers, il fallait les combattre. D'accord. Donc, moi, je l'arrête là, mais s'il y a le temps, je vous donne l'avis intérieur de ce conseil un peu après, s'il le faut.
Okay, je ne sais pas si mon micro marche. C'est bon ? Ok, j'avais préparé une intervention beaucoup plus longue par rapport à ce que je vais vous lire. Vu l'actualité, j'ai préféré parler la moitié de mon temps sur l'actualité, et en particulier sur ce qui se passe dans l'industrie pétrolière actuellement et les mouvements actuels. Donc je vais lire ce que j'ai préparé. Il y a beaucoup de lacunes parce que je l'ai vraiment réduit pour parler de l'actualité dans un second temps. Les émigrés iraniens étaient dispersés un peu partout dans le Caucase au début du XXe siècle. Plusieurs milliers d'entre eux travaillaient dans l'industrie pétrolière de Bakou, actuelle capitale de l'Azerbaïdjan. Entre 1904 et 1907, le nombre d'ouvriers pétroliers de Bakou est passé de 27 700 à 50 000, dont 10 000 Iraniens. Ils recevaient les salaires les plus bas et étaient humiliés par le patronat. Les militants sociodémocrates de l'époque s'étonnaient de leur niveau de conscience de classe très bas. Les patrons se servaient d'ouvriers iraniens comme casseurs de grève. William Knox Darcy était un capitaliste anglais qui est venu en Iran en 1901. Il signe un contrat de 60 ans pour toutes les explorations de pétrole et de gaz partout en Iran, sauf le Nord, contre seulement le paiement de 1% de bénéfices au roi, c'est-à-dire au gouvernement royal. 7 ans plus tard, l'Anglo-Persian Oil Company est créée. En 1909, un grand gisement de pétrole est découvert à Masjed Soleiman, une ville de la province du Khuzestan, au sud-ouest de l'Iran. Pas loin de là, la raffinerie d'Abadan est construite en 1912 pour recevoir le pétrole puisé à Masjed Soleiman, et la première exportation du pétrole se fait la même année. La raffinerie d'Abadan reste la plus importante du Proche-Orient au moment de la révolution de 1979, où 600 000 barils par jour sont raffinés. Les premières formes de conseils ouvriers dans l'industrie pétrolière iranienne apparaissent dans les années 1930, mais c'était en vérité des conseils pour arbitrer les litiges entre les ouvriers et leurs supérieurs, et pas plus. Rien que pour ce genre d'organisation, la répression s'abat sur les ouvriers. Par exemple, en 1929, un ouvrier qui s'appelait Ali Omid, un délégué des ouvriers, est condamné à 12 ans de prison pour avoir tenté d'organiser les collègues. Les premières grèves dans l'industrie pétrolière iranienne remontent au début des années 1940. Les ouvriers exigent en 1948, au cours d'une grève, la fin de la mainmise des Anglais sur l'industrie pétrolière. C'est ainsi qu'en 1951, le pétrole est nationalisé sous le gouvernement du nationaliste Mossadegh, contre qui l'Angleterre et les USA font un coup d'État 2 ans plus tard et font revenir le Shah, ayant fui le pays. En 1946, les ouvriers pétroliers font encore une grande grève qui apporte comme résultat l'élaboration du premier code du travail en Iran, inexistant jusqu'alors. Le coup d'État de 1953 prive la société de toute liberté politique et les ouvriers de liberté de s'organiser et de se syndiquer. Mais une quinzaine d'années plus tard, ils réussissent à avoir des délégués pour des conventions collectives de travail. Des syndicats se forment ici ou là, mais le régime du Shah empêche la formation d'une fédération des syndicats des ouvriers pétroliers, surtout entre les ouvriers pétroliers du Sud et ceux d'autres régions comme Téhéran, la capitale iranienne. Il envoie des agents de la SAVAK. La SAVAK, c'est l'acronyme de la police politique du Shah, qui s'appelait l'Organisation de la sécurité du pays. Sa police politique dans les réunions syndicales. Ces infiltrations n'ont jamais cessé et ont été assez efficaces pour stopper une organisation nationale dans l'industrie pétrolière. Jusqu'en 1974, de petits mouvements de grève, entre 1 à 7 jours, se font surtout parmi les ouvriers qui travaillent dans la réparation des machines. C'était déjà pas mal, car la grève était totalement interdite et très, très fortement sanctionnée. La SABAC arrête 50 ouvriers en 1974, qui voulaient lancer un grand mouvement de grève. Ils rencontrent, les ouvriers arrêtés, c'est-à-dire, à la prison des membres de deux organisations politiques clandestines, Moudjahidine du Peuple et Fedaïne du Peuple, qui faisaient de la lutte armée. La première organisation qui s'appelle Moudjahidine du Peuple, c'était une organisation qui faisait de la lutte armée, mais c'était une organisation religieuse. Et la seconde organisation, dont le nom complet c'était l'Organisation des Guerreros Fedaïnes du Peuple d'Iran, était une organisation marxiste de type guévariste qui menait une lutte armée depuis 1971. Mais cette organisation guévariste ne fait aucune attention aux revendications ouvrières, car elle trouve que le travail militant ouvrier ne sert à rien sous la dictature du régime du Shah. Chris Goudet écrit en juin 1980 dans « Workers' Councils in Iranian Factories » ceci. « Les fédaïnes du peuple et les groupes maoïstes étaient parmi les ouvriers, mais ils croient que l'autogestion est une revendication économique qui ne sert que les novices dans le mouvement ouvrier. Ils pensent pouvoir la faire évoluer vers une revendication politique sous leur leadership. » Fin de citation. En mars 1978, des ouvriers pétroliers sont libérés sous la pression de l'opinion publique et des gens qui manifestaient déjà depuis quelques mois contre le régime du Shah. Ils constatent que leurs collègues de Téhéran se sont déjà organisés au sein de comités clandestins pour organiser des grèves. Leurs collègues du Khuzestan avaient fait autant. Même un comité national de grève des ouvriers pétroliers s'était formé. Le 10 septembre 1978, les ouvriers pétroliers de Téhéran se mettent en grève, illimitée, mais le personnel administratif continue de travailler. Les ouvriers publient d'abord 35 revendications syndicales, mais petit à petit, leur grève devient politique et exige la fin de la monarchie. Un mois plus tard, les ouvriers de la raffinerie d'Abadan commencent la grève, mais sont menacés par le gouvernement militaire. Ils arrêtent le mouvement pour revenir plus fort un mois plus tard. C'est-à-dire, c'est à partir de ce moment que la grève des ouvriers pétroliers devient générale et illimitée, jusqu'au 11 février 1979, le jour où le régime du Shah est renversé définitivement. Une grande difficulté des ouvriers grévistes était l'absence de caisse de grève, bien que des étudiants les aient aidés à collecter des fonds, mais cela était insuffisant. Les bazaris, c'est-à-dire les grands commerçants qui étaient des alliés financiers et politiques très importants de l'Ayatollah Khomeini, s'y sont mis pour influencer le mouvement. Les ouvriers pétroliers ont transformé leur comité de grève en conseil. Après le renversement du régime, des paysans et des soldats avaient aussi formé des conseils pour s'occuper de leurs affaires. Mais aucune liaison n'existait entre tous ces conseils. Cela a été une autre faiblesse du mouvement autogestionnaire naissant, après celle de sa dépendance financière pendant la grève générale illimitée. Les ouvriers de chaque secteur de l'industrie pétrolière ont fait leurs propres conseils. Par exemple, les ouvriers des machines de précision, les tourneurs, les soudeurs, les personnels administratifs ou même les pompiers. Ils faisaient des assemblées générales pour prendre des décisions. Les conseils ouvriers ont commencé à analyser les difficultés de production de pétrole, de gaz et de pétrochimie. Ils ont réintégré les ouvriers mis au chômage ou emprisonnés pour leur activisme. Ils ont les ouvriers contractuels et sous CDD sont devenus officiels comme les autres grâce aux conseils. Les conseils ont augmenté les salaires et géré les exportations du pétrole. Ils ont démis les dirigeants qui avaient mis des bâtons dans les roues du mouvement et même interrogé les agents de la SAVAK infiltrés dans le mouvement. Petit à petit, les responsables du nouveau gouvernement, du nouveau régime, ont commencé à s'inquiéter. Ils ont invité les ouvriers à faire des syndicats, qui étaient à ce moment-là une forme inférieure d'organisation au conseil autogestionnaire. Ils ont même invité les ouvriers à participer à l'élaboration du nouveau code du travail. Le soi-disant nouveau régime a essayé d'affaiblir les conseils ouvriers en créant des organismes parallèles, comme des associations islamiques, qui deviendront les conseils islamiques du travail, qui existent encore, sans toutefois aucun crédit auprès de la majorité des ouvriers. Donc, pour considérer que le déclenchement de la guerre des deux États iraniens et irakiens le 22 septembre 1980 a donné une occasion en or pour tuer l'expérience autogestionnaire. La période des libertés politiques relatives a duré jusqu'en juin 1981, à partir de quelle date une répression sauvage a commencé. Le premier président de la République islamique, qui s'appelait Bani Sadr, a tout fait pour mettre fin au Conseil ouvrier. L'ironie de l'histoire est que lui-même a été destitué par le guide suprême, l'Ayatollah Khomeini, et est mort en exil en France en 2015. Après juin 1981, le régime arrête 140 ouvriers membres des conseils. Les derniers seront libérés 7 ans plus tard. En février 1982, le gouvernement annonce officiellement la dissolution de tous les conseils des ouvriers pétroliers. Voilà, ça c'était une histoire bref de comment les ouvriers pétroliers ont commencé à travailler d'abord à Bakou, dans le Caucase, ensuite quand on a découvert les premiers gisements, etc. Bon, maintenant, ce que je voulais dire, c'est que la situation actuelle dans l'industrie pétrolière est complètement, complètement différente de tout ce qui s'est passé jusqu'en donc, la dissolution des conseils ouvriers, parce qu'à l'époque, même plusieurs années après l'instauration du nouveau régime, il y avait un seul patron pour tous les ouvriers pétroliers, c'était la Société nationale du pétrole d'Iran. Donc les ouvriers, tous les ouvriers du pétrole, dans n'importe quel secteur du pétrole, travaillaient pour un seul patron, cette Société nationale du pétrole. Mais après, la République islamique a décidé, comme un peu partout pareil, partout dans le monde, de sous-traiter une grande partie de l'industrie à des sociétés différentes. C'est-à-dire que maintenant, nous avons deux grands groupes d'ouvriers. Il y a un groupe d'ouvriers qui travaillent, qu'on appelle les ouvriers officiels, qui travaillent toujours pour la Société nationale du pétrole, qui ont comme patron l'État, et qui sont très très bien payés par rapport aux autres ouvriers qu'on appelle les ouvriers contractuels, qui travaillent pour énormément de sociétés. Par exemple, moi j'ai vu un rapport récemment, dans une petite zone géographique, il y a 350 ouvriers qui travaillent dans le pétrole pour 30 sociétés différentes. Donc le fait que les ouvriers soient séparés en deux grandes parties, après les ouvriers contractuels sont encore sous-divisés dans énormément de sociétés, peut-être des centaines, je ne sais pas combien de sociétés il y a, rend très très difficile leur organisation déjà. Déjà le régime de la République islamique, jusqu'à maintenant, n'a même pas autorisé les petits syndicats qu'il y avait à l'époque du Shah. Il n'y a que les conseils pour... Les ouvriers n'ont d'autre choix que s'organiser dans les conseils islamiques du travail qui ne servent vraiment à rien. C'est une organisation gouvernementale. Alors, donc, une grosse difficulté aujourd'hui pour organiser les ouvriers pétroliers, c'est ça. C'est qu'ils sont divisés en deux parties et les ouvriers qui travaillent, en fait, dans la partie privée de l'industrie pétrolière, sont eux aussi, ils ne sont pas dans de grosses sociétés, ils sont dans des petites sociétés. Et bien justement, ces ouvriers qu'on appelle les ouvriers pétroliers, il y a quelques années, ont commencé à s'organiser au sein d'un conseil d'organisation des protestations des ouvriers pétroliers contractuels. Ils ont commencé en s'organisant avec des moyens comme ils avaient un canal privé, c'est-à-dire que c'était fermé, sur la messagerie Telegram. Et il y avait une seule condition pour entrer dans le groupe, c'est de prouver qu'ils sont véritablement un ouvrier pétrolier, ils travaillent quelque part dans le pétrole, ils devaient prouver ça. Et puis ils sont arrivés jusqu'à 10 000 membres dans le groupe sur le canal Telegram. Et à un moment donné, le régime s'est aperçu de ce canal Telegram et le fait qu'il y a des milliers d'ouvriers dedans. Donc ils ont fait pression, ils ont pu trouver les administrateurs du groupe et ils l'ont fermé, le canal Telegram de ces ouvriers qui était fermé, hein, qui était pas public, qui était pas ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que les gens comme moi ne pouvaient pas savoir ce qui se passait dedans, les informations, tout ça, c'était juste pour les ouvriers. Et quand ils ont fermé ce canal Telegram fermé, les ouvriers ont ouvert un autre canal Telegram, cette fois-ci ouvert. Tout le monde peut y aller. Par exemple, moi, je l'ai sur mon téléphone. Je peux même montrer leur logo et tout. C'est ça. Et c'est à partir de ce... Ils n'ont pas d'autre chose que ce canal Telegram pour diffuser leurs informations, etc. Donc, ils diffusent les informations sur leur mouvement et tout ce qui se passe dans les coins à partir de ce canal Telegram. Et par exemple, là, il marque, je vais vous lire ce qu'il marque, il marque le conseil d'organisation des protestations des ouvriers pétroliers, des ouvriers contractuels du pétrole, sont pour l'unité et la solidarité de tous les secteurs ouvriers de l'industrie pétrolière. Ça, c'est leur slogan, en quelque fait, dans leur canal Telegram. Eh bien, ils ont fait, il y a, je pense, 2 ans ou 3 ans, un grand mouvement de grève dans des zones géographiques, surtout au sud de l'Iran, qui a duré plusieurs jours. Ils ont eu quand même quelques petites victoires. Par exemple, ils ont pu avoir des augmentations de salaire. Mais même après ces augmentations de salaire, leur salaire par rapport aux ouvriers officiels est beaucoup plus bas. Et ça, c'est une politique du gouvernement pour diviser un peu les deux parties, enfin les ouvriers officiels et les ouvriers non officiels, comme ça. Et puis, ils ont réussi à avoir des... Okay. Ils ont réussi à avoir un peu ce qu'ils voulaient sur leur temps de travail, c'est-à-dire ils demandaient 20 jours de travail et 10 jours de repos, parce que la plupart, ils n'habitent pas sur les lieux de travail. Des fois, ils travaillent sur les plateformes dans le Golfe Persique, etc. Donc, ils ont réussi à avoir ça. Et puis, malheureusement, je n'ai pas le temps. Et ce sont parmi les premiers ouvriers qui ont commencé des grèves. Là, il y a la grève, le mouvement de grève actuel des ouvriers pétroliers contractuels n'est pas aussi important que leur mouvement précédent, il y a 2-3 ans. Mais par contre, cette fois-ci, ils se sont mis en grève. Moi, j'ai dans 2-3 endroits, ils sont en grève depuis 5 jours. Enfin, ce n'est pas une grève syndicale maintenant, c'est une grève politique. C'est-à-dire qu'ils se sont mis en grève contre l'assassinat de Mahsa Amini, et puis ça continue. Mais beaucoup d'endroits, surtout, Fereydoun le connaît peut-être comme moi, des endroits comme Assalouye, qui est au sud du pays, c'est un endroit qui a été complètement militarisé il y a 2-3 ans, parce que le régime, il y a des gazoducs, des routes pour transporter le pétrole et tout ça. Ils sont dans des situations très, très, très difficiles. Il y a quelques jours, ils ont annoncé que pour ce nouveau mouvement de grève contre l'assassinat de Mahsa Amini, il y a eu 11 arrestations, et 2 jours plus tard, ils ont même donné le nom des 11 ouvriers qui ont été arrêtés, qui sont en état d'arrestation maintenant, en ce moment. Et puis, ils ont dit qu'ils se sont aperçus qu'il y a une trentaine de leurs collègues qui sont arrêtés, mais ils n'ont pas encore la liste de ces ouvriers qui sont là. Donc, au moins, une trentaine d'ouvriers pétroliers contractuels ont été arrêtés durant le mouvement qui continue encore. Donc, moi, je n'ai plus de temps, là. Je vais monter maintenant pour...
Oui, donc, merci. On va... Nader va monter là-bas et se mettre en contact avec le copain qui a travaillé dans la sidérurgie. Et donc, Nader fera la traduction quasi simultanée de l'intervention du copain. Oui. Je vais
juste présenter qui va parler. Meissam est un ouvrier qui a travaillé une dizaine d'années dans une aciérie très importante à Ahvaz, dans le sud, toujours dans le Khuzestan. À Ahvaz, ils faisaient beaucoup de protestations quand Meissam était encore là-bas. Enfin, c'est pas à cause de lui qu'il y avait des protestations, mais c'était le moment où il y avait beaucoup de protestations. Ils sont sortis de leurs usines et puis ils étaient dans les rues à Ahvaz. Et lui-même, il a été arrêté. Et je me rappelle que quand il était arrêté, on a fait tout ce qu'on pouvait pour le faire libérer. Et quand il a été libéré, sur la proposition de ses collègues ouvriers métallurgistes de l'aciérie d'Ahvaz, il est sorti du pays et actuellement il est en Suisse et il est demandeur d'asile en Suisse. Il est du Khuzestan, sa langue maternelle est arabe, mais comme moi je ne parle pas arabe, et il va parler en persan, mais je vais le traduire. Voilà.
Voilà, donc quelques petits moments techniques là. Oui, bon. Pendant qu'il s'installe, si tu as un petit mot à dire, t'hésites pas. Si tu veux faire un petit rajout pendant que ça se... Non, non, pas fermé. Si tu veux dire un peu plus hein, quelque chose que tu n'as pas eu le temps de dire tout à l'heure.
Il a beaucoup de choses à dire.
Ah, je sais, oui. C'est bon ? Il faudra peut-être éteindre la lumière, non ?
On aura juste le son.
Il y a un petit bruit, là.
Mais ça, c'est d'ailleurs ma vie, je t'ai dit.
سلام میسم جان من فریدونم
سلام رفیق فریدون خسته نباشید سلام میکنم خدمت همه رفقا از صمیم قلبم آرزو میکردم که امروز وضعیتم اینجور نبود که میتونستم حضوری در کنار شما باشم و من الان مستقیما میرم سر بحث سازماندهی کارگران فولاد و رابطه اون با کارگران پروژه‌ای و همچنین این تجربه رو چگونه داریم به محلات انتقال میدیم. من در مورد این ساختار از تشکل صحبت میکنم که مبتنی بر کمیته های کوچک کارگری هستن و دلیل این که چرا ما میریم سراغ کمیته های کوچک کارگری در درون کارخانه فولاد مسئله رو اینجوری میبینیم که ما در بله
لطفا جملاتت کوتاه باشه که من بتونم ترجمه کنم بلکه خیلی طولانی باشه من یادم میره
بله پس تا همین جا رو ترجمه کنید تا من ادامه بدم
اوکی میسم Alors il dit qu'il est désolé de ne pas pouvoir être là physiquement et puis il dit qu'il va en particulier parler de tout ce qui se passe dans les aciéries où il a travaillé pendant une dizaine d'années et puis il va expliquer un peu il va expliquer un peu les discussions qui y a parmi les ouvriers d'aciéries de Ahvaz qui est la capitale du Khuzestan. Mais ça va couteau.
کارایدش باشه داخلشون فولاد چون ما رو به روی یک دیکتاتوری بودیم که از هر نوع تشکل ما رو منع میکنه
Il dit que de toute manière, depuis qu'on a commencé à parler de fermes, d'organisations ouvrières, ça a été dès le départ très difficile parce qu'en Iran, on est sous une dictature politique qui ne nous laisse pas même des discussions au sein d'une entreprise. Et puis après, il dit de toute manière, les mollahs ont fait en sorte que psychologiquement, la société se sente très inférieure à ce qu'elle pourrait être et que les avis ne comptent pas de toute manière dans ce genre de société.
دوباره به اون بدیم از طریق این تشکل خودمون که رأیشو به شمار بیاریم و خودت به یک به مفاهیم طبقه رو ترتیب بکنیم در میان این کارگران و رفقای ما
Donc il dit que vu cette situation, nous ne voulions pas seulement faire une organisation ouvrière dans notre entreprise, mais nous voulions dire aux ouvriers que leur avis compte et il faut qu'ils acceptent de participer à la constitution des groupes ou d'une organisation parce que c'est surtout leur avis qui compte en tant que personne et en tant qu'ouvrier. Travaillant dans une entreprise.
در طول یک سال تقریبا یک الا دو سال تونستیم مسائل سیاسی و مسائل روز ایران مطرح بکنیم که تونستیم خیلی از کارگران درگیر این مسئله و این هم فکری ها بکنیم.
Donc il dit qu'on a vraiment commencé par des petits pas, d'abord pour attirer les collègues au sein de comité pour parler de nos problèmes, et ensuite, une fois qu'on a réussi à avoir un groupe assez conséquent, on a commencé aussi à parler de politique et de tout ce qui se passe dans le pays au niveau national, et puis expliquer un peu les choses et le rôle que les ouvriers pourraient avoir, aussi bien au sein de l'entreprise qu'au sein de la société tout entière.
و بعد از اون در یک پروسه یک ساله موفق شدیم کنگره ای تشکیل بدیم که در درون اون کنگره از هر کمیته ای تقریبا یک یا دو نفر از رفقای ما می اومدن و در این کنگره یک جلسات بازی انجام می شد که افرادی که در درون این کمیته بودن حق شرکت داشتن، اما نمایندگان چرخشی به شکل چرخشی نمایندگان کمیته ها تو این کنگره شرکت می کردن.
Ok, il dit qu'après à peu près un an, les comités qui étaient constitués ont fait carrément un congrès. Et puis dans ce congrès, il y avait en quelque sorte apparemment un congrès permanent, parce que les membres des comités qui entraient dans le congrès n'étaient pas des membres permanents. Et puis ils étaient remplacés tout le temps par d'autres ouvriers.
و بعد از این کنگره را تشکیل دادیم در درون کنگره مباحث این که در این هفته یک بار این کنگره تشکیل می شود به خاطر شرایط اضطراری که داشتیم و این شرایط اضطراری از این که ما به عنوان کارگران محترز اون زمان در دموستریشن ها و تظاهرات ها شرکت می کردیم و بررسی می کردیم هفته آینده و هفته گذشته رو به شکل بررسی می کردیم و آماده می کردیم خودمون و خودمون هم نقد می کردیم در این مباحث.
OK, donc ce qu'il appelle un congrès en fait avait des réunions désormais hebdomadaires, et puis à chaque réunion hebdomadaire les ouvriers parlaient de ce qui s'est passé pendant la semaine passée et de leurs décisions pour faire des actions pour la semaine à venir quoi.
برای این که پیشگیری بکنیم از هر شکلی از فردگرایی یا هر دیکتاتوری که توی آینده میتونه این نوع سازماندهی ایجاد بکنه، تمام این رفتارها به شکل چرخشی بودن و هیچ افراد ثابت توی این کنگره و همچنین توی این کمیته ها نمایندگی نمی کردن، بلکه همیشه چرخشی بود تا مشارکت کلی باشه.
Donc il dit, nous avons décidé pour qu'il n'y ait pas une prise de pouvoir dans le Congrès, que les gens qui participent soient remplacés tout le temps pour que certains ne pensent pas à prendre le pouvoir au sein du comité et puis après influencer les réunions du congrès.
و همچنین دولت وقتی میخواست با ما مذاکره بکنه و به شکل قدرت با ما برخورد میکرد و میگفت نماینده به ما معرفی بکنید، از اونجایی که همه چی به شکل چرخشیه و همه چی اونجا فردیت نداشت، اصلا نمیشد نماینده معرفی بکنید، بلکه به اونها اعلان کردیم که ما هیچ نماینده ای نداریم و باید دولت خودش وارد کنگره ما بشه و اونجا روبروی همه کارگرها صحبت بکنه. ما نماینده فردیت نیستیم، فردیت نماینده نیست.
Après, quand ils ont fait donc des manifestations qui ont dépassé les murs de l'entreprise, à un moment donné, l'État est venu vers eux et a demandé qu'ils envoient leurs délégués pour discuter, etc. Et la réponse des ouvriers était que nous n'avons pas des délégués permanents, et ils ont invité les représentants de l'État pour venir leur parler à eux, et pas l'inverse.
و چشمانداز این نوع تشکل، ما یک چشمانداز داشتیم، چشمانداز ایجاد شوراهای کارگری، و بعد از این شوراهای کارگری چشمانداز بلند مدت ما ایجاد حزب جنبش کارگری بود.
Donc il dit que notre perspective en faisant ce genre d'organisation était de constituer des conseils ou un conseil, parce que pour nous, le conseil était une forme supérieure d'organisation, et ensuite aller vers un groupe politique ou même un parti politique qui représentait les ouvriers. Mais c'est pas une erreur, pas une erreur.
پنج دقیقه اوکی و ما تونستیم این تجربه رو وارد محله های فرودستی بکنیم توی اهواز که در جریان سیلی که توی اهواز اومد مردم تونستن اون کمیته های مردمی رو تشکیل بدن و همچنین یک کمیته کارگری که کارگران و فولاد بودن اونجا فعالیت میکردن و یکی از مهمترین کارهایی که کمیته فولاد انجام داد برداشتن پول از صندوق احتساب بود و همچنین احتساب غذا توی کارخونه و سازماندهی اون غذا برای سیل‌زده ها بود.
Puis il dit à ce moment-là on a réussi à aller dans les quartiers d'Ahvaz pour proposer aux gens de faire aussi des comités comme nous l'avons fait. À un moment donné, on avait un peu réussi parce que quand il y a eu une grande inondation suite à des pluies diluviennes, les gens ont commencé à s'entraider et puis ils ont même réussi à faire une caisse de grève et puis alimenter la caisse de grève, etc.
و به عنوان یک تشکل مردمی جوابگو بود و خیلی عالی جواب داد، اما خب همیشه یک سرکوب دولتی اونجا روبروی ما بود در تمام این ساختارها.
Puis il dit dès que le gouvernement s'est aperçu que notre forme organisationnelle marche, le gouvernement a décidé de d'utiliser la répression pour casser les comités et puis le congrès qu'on avait fait, etc.
لیدرهای ما همیشه توی جمع تعریف می‌شدن و نمی‌شد به اونها ضربه زد.
Et puis il dit que malgré toute la répression qu'on a subie par la suite, ils n'ont pas pu arrêter des leaders, des dirigeants, parce qu'on n'en avait pas. Et puis qu'au sein de nos comités, tout le monde était en quelque sorte intervenant et puis il n'y avait pas de leaders en fait. C'est pour ça que la répression de nos comités était difficile pour l'État.
و همچنین تلاش کردیم توی این فاصله این ساختار از تشکل و با بچه‌های پروژه‌ای شرکت نفت به اشتراک بذاریم.
Il dit que à un moment donné, justement, moi je parlais tout à l'heure d'ouvriers pétroliers contractuels, il dit à un moment donné, nous avons discuté avec les ouvriers pétroliers contractuels, pas les ouvriers officiels, de nos expériences, et nous avons partagé notre expérience avec ces ouvriers pétroliers dans notre coin.
و همین الان هم چون این ساختار از تشکل فردیت یا مجموعه رو به فردیت نمیبره، رفتار دولت باز هم داره تکرار میشه. امروز توی کارگران پروژه‌ای تا به این لحظه حدودا 100 نفر از رفقای ما رو بازداشت کردن در شهر اصلویه و هنگام و همچنین جام.
Et puis il dit que comme les ouvriers pétroliers contractuels ont à peu près la même forme d'organisation que nous, le nombre important des ouvriers qui ont été arrêtés ces derniers jours pour leur mouvement de grève, ça vient de ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu arrêter un ou deux leaders, on a arrêté plusieurs dizaines d'ouvriers là-bas dans la zone géographique qui s'appelle Assalouye.
و در پایان صحبت‌های من باز هم تشکر می‌کنم که این وقت در اختیار من گذاشتیم و همچنین بحث‌ها در مورد این نوع ساختار تشکل بحث‌های بسیار بلندیه و می‌تونیم خیلی در وقت و زمان دیگه می‌تونیم خیلی بیشتر در موردش صحبت بکنیم و همچنین از تمام رفقایی که اونجا هستن خواهش می‌کنم که در کنار رفقای کارگر ما در کارگران پروژه‌ای که بسیار دارن سرکوب میشن، اینترنت قطع شده، آب و برق کمپین ها قطع شده و همچنین کمپین های کارگران پروژه‌ای محاصره شده و همینطور داره آمار بازداشتی ها زیاد میشه.
Okay. Et il vous remercie de l'avoir écouté. Et puis, il demande il vous demande la solidarité des gens qui peuvent manifester leur solidarité, surtout avec les ouvriers pétroliers contractuels qui sont dans des situations difficiles. Et il dit que même on leur a coupé l'eau et le courant parce que ces ouvriers n'habitent pas chez eux. Ils ont des camps. Souvent tout près de leur travail. Et puis, ces derniers jours, on a décidé de leur couper même l'eau et le courant électrique. Et puis, ils pensent que le fait que... au début, il a dit que, de toute manière, ces discussions sont toujours en cours parmi les ouvriers, que ce soit les ouvriers métallurgistes ou surtout les ouvriers pétroliers, et qu'ils pouvaient parler beaucoup plus longtemps, mais malheureusement, le temps manque. مرسی بکو میرسم ازت تشکر میکنم منم ازت تشکر میکنم با...
مرسی تشکر منم از همه شما تشکر میکنم که سازماندهی کردیم و من تونستم با رفقا تجربه اون به اشتراک بذارم و اگر سوالی نیست من میتونم قطع بکنم تماسمو
ایده ما سی فوز اوید کستیون ایده پرس اینو ای سان با میرسم زمان ندارن خیلی ازت تشکر میکنن و خیلی خیلی خواستشون جالب بود همه یک پارچه گوش میکردن به حرفات خیلی ممنون خیلی جالب بود اینجا سالن پره و همه واقعا دقیق به حرفات گوش کردن خیلی ممنون تا بعد میسم جان باید تماس میگیرم مرسی
voilà donc pas de question de toute façon on parle assez mal le persan à part quelques-uns dans cette salle on va avoir un autre moment on va donc quitter l'amphithéâtre on va avoir deux ateliers. Il y a un premier atelier, tu vas expliquer où c'est, un premier atelier autour de la coopérative de Ambiance Bois, je ne sais jamais le nom, moi, c'est quelque chose, ça. Voilà, une coopérative où on produit dans la Creuse un certain nombre d'objets tirés du bois, donc ça c'est dans la bibliothèque. Et on a un deuxième atelier avec deux militantes qui ont animé la grève dans l'hôtellerie parisienne il n'y a pas longtemps. Donc un atelier... L'hôtellerie en grève, un atelier avec les constructions bois et la coopérative de la Creuse.
En salle d'art plastique, qui est en prenant l'escalier qui se situe juste à côté de la porte de la bibliothèque, dans le couloir, la première porte sur la droite, en prenant le grand couloir.
Et donc on se retrouve dans une heure pour le film de Chris Marker sur l'IP.
Radio Libertaire, 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Eh bien, comme vous l'avez compris, la suite ne va pas se dérouler en direct à la radio, puisque nous ne serons pas dans des locaux où cela le permet. Vous entendez le brouhaha derrière, tout le monde est en train de quitter la salle pour aller vers les autres lieux. Je vais vous envoyer un petit peu de musique. Je ne sais pas s'il y aura quelqu'un pour reprendre un direct tout de suite, mais je sais que quoi qu'il arrive, à 19h, vous avez rendez-vous avec Tribuna Latino-Americana. Et tout de suite, alors, un titre de circonstance pour l'autogestion et puis de la musique moins ciblée après. Au revoir.
Plus de flics au carrefour de nos doutes, plus de week-ends pour baliser les routes qui nous conduisent aux prairies dépolluées où l'on se couche dans les doux soirs d'été. On a beau fouiller les quatre horizons, rien n'est plus poétique que l'autogestion. On verra les derniers hommes politiques faire leurs discours aux foules ironiques. On applaudira pour pas les vexer, puis on rentrera chez nous sans voter. On a beau fouiller les quatre horizons, rien n'est plus poétique que l'autogestion. On pendra ni patron ni président, car les martyrs font toujours des enfants.
qui, 5 ans après les révolutions, prennent le pouvoir et finissent la chanson. On a beau fouiller les quatre horizons, rien n'est plus poétique que l'autogestion. Il n'y aura plus de conneries à la radio, rien que des idées, rien que du nouveau. Connaissance et plaisir seront mêlés, y a les speakers qui devront changer de métier. On a beau fouiller les quatre horizons, rien n'est plus poétique que l'autogestion. On saura qu'on respire tous le même air, que bêtes et hommes, hommes et univers, atomes, cosmos, on est tous solidaires. On fait tous la ronde dans la même galère. On a beau fouiller les quatre horizons, rien n'est plus poétique que l'autogestion. En attendant, on trime tous comme des cons, chacun fermé pour cause de production. On crève d'ennui entre deux élections, on crève de faim de l'autre côté de l'horizon. Y'a que l'utopie qui allume l'horizon, rien n'est plus poétique que l'autogestion.
Cette rose sans pétale qui tombe froide sur la dalle, cet avocat à la serviette, ce taupe qui met la voilette pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu. Ces bois que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices, et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ceux que la société rejette sous prétexte qu'ils n'ont ni Dieu, ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître.